L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 22 juin 1986. Il est 12h51. À Mexico, le stade Azteca, rempli de près de 115 000 furieux ralliés à la cause de l'Argentine, retient son souffle. Dans quelques secondes, au terme d'un duel aussi improbable que légendaire, Diego Maradona, le capitaine de la sélection sud-américaine, s'apprête à crucifier l'ennemi anglais. L'ennemi, oui. Oui, il y a peu encore, ces deux pays se faisaient la guerre. Alors lui, Diego, l'enfant du peuple, veut gagner coûte que coûte. Au terme d'une incroyable cohue, le ballon termine sa course au fond des filets. A-t-il marqué de la tête, lui, le petit d'1m65 face au géant Shilton qui garde les cages d'en face? Ou bien s'est-il servi de sa main, ce qui, inutile de vous le préciser, serait un acte d'anti-jeu terrible? Cette anecdote sportive, sur fond de tensions géopolitiques, va entrer dans l'histoire. Bientôt, un tricheur entrera au panthéon de son sport. Bientôt, il pourra s'asseoir aux côtés des plus grands, Platini, Raoul Lambert ou Raymond Coppa. Mais à leur différence, lui sera champion du monde. 12h51, l'heure H de mon récit. Un peu plus d'une heure plus tôt, Sacha Gutiérrez s'est installé avec son père dans l'une des très nombreuses tribunes du stade Azteca de Mexico. La célèbre enceinte, qui héberge en championnat l'América, le plus grand club du pays, est en fusion avant même le coup d'envoi du match. Le petit garçon de 10 ans a des étoiles plein les yeux. Il va enfin pouvoir voir jouer son idole, Diego Maradona. Coup d'envoi prévu à 12 heures pour ce quart de finale d'une compétition de tous les records. D'un côté, l'Argentine, grande gagnante de l'édition 78, en quête de rédemption après une Coupe du Monde 1982, tout bonnement catastrophique. Et puis de l'autre, l'Angleterre, le pays du football. Un panel de stars dans les deux équipes. D'un côté, Maradona, Batista, Enrique, Borghi. Et puis de l'autre, Shilton, Robson, Lineker, Dixon. Ah, ce duel, il sent la poudre. Le petit Sacha s'installe sur les sièges qui font mal aux fesses et demande à boire à son père. Ce dernier, lui aussi, est émerveillé de voir tant de monde réuni au creux de cette arène où bientôt se livrera un duel à mort. Tout le pays est derrière l'Argentine pour ce match. Il en va de l'hégémonie sud-américaine sur l'Europe. Et puis, il en va de l'honneur d'un continent tout entier, encore meurtri par la guerre des Malouines. Alors qu'il regarde les avions passer dans le ciel et qu'il observe deux voisins en train de se chamailler, l'entrée sur la pelouse des joueurs pour l'échauffement tire Sacha de sa rêverie. Il secoue très fort son maillot de l'Argentine, hurle lorsque le speaker annonce la composition d'équipe et siffle à l'annonce des noms des joueurs anglais. Ça y est. Maradona est là, il le voit, petit point parmi les autres sur la pelouse. Sa tignasse brune descendant sur ses épaules, son brassard de capitaine fièrement porté sur la manche de son t-shirt, le taureau du Napoli à l'écume au bord des lèvres. En face de lui, pour donner l'engagement, l'anglais Lineker, flegmatique et impassible, comme tout bon insulaire de sa nationalité, il le regarde avec dédain. Après tout, le football n'existe que grâce aux Anglais. Il compte bien donner à ce pays meurtri une bonne leçon. Il va être servi. Le coup de sifflet de l'arbitre Ali Benacker lance les hostilités. Le Tunisien est particulièrement stressé. Alors qu'il suit à bonne distance les mouvements du ballon, il transpire déjà à grosses gouttes, avant même la première accélération. Il fait chaud. Et pas uniquement à cause de la température extérieure. Non, la tension est palpable aussi. L'arbitre sent bien que les Argentins sont prêts à découper de l'anglais sur le pré si nécessaire. Son boulot s'annonce particulièrement complexe. Dans les tribunes aussi, la tension est montée d'un cran. Des spectateurs battent le tambour à la manière militaire, d'autres insultent les Britanniques. Sacha et son père, eux, profitent du spectacle. Sur le terrain, l'enjeu est l'ennemi du show. Les équipes rentre au vestiaire après une première période tendue durant laquelle les contacts et les invectives se sont multipliés. 0-0 et 115 000 déçus. Tout le monde espère que l'Argentine ne sera pas la victime d'un but dans le money time de la part de l'Angleterre. Sacha profite de la pause pour acheter un hot dog. Son père, lui, ressent chaque petite part du stress ambiant. Les deux spectateurs de Mexico regagnent leur siège pour le début du deuxième acte qui, lui, va définitivement entrer dans la légende du sport. 51e minute d'un match pour le moins décis. Les premiers instants de la seconde période laissent présager d'une légère domination de l'Albiceleste, l'équipe argentine qui accélère. Au milieu du terrain, le cuir est récupéré par Enrique qui transmet à Maradona. Numéro 10 floqué dans le dos, crinière de lion sur les épaules, yeux de lynx rivé sur ses pieds. Maradona perfore la défense centrale de l'Angleterre. Les deux colosses, Butcher et Fenwick, sont largués et le prodige argentin bouscule les 1m93 de Butcher avec une étonnante facilité. Il est maintenant à l'entrée de la surface de réparation. Mais coup de génie! Au lieu de frapper, de se heurter à la muraille Shilton encore une fois, Maradona décale la balle vers son ami de toujours, Valdano. Ils se connaissent. Ils ont bossé ce geste à l'entraînement des centaines de fois. Improbable situation. Il s'enfonce dans la surface et attend un 1-2 de son coéquipier. Il n'arrivera jamais. Le ballon tape maladroitement le pied de Valdano, puis est récupéré par un défenseur anglais qui, pour se dégager, envoie une balle en cloche vers le portier. Maradona est seul face au gardien anglais. Il fait deux têtes de plus que lui, ce Peter Shilton. L'imposant portier s'avance en courant vers le ballon, en déroulant des jambes qui paraissent mesurer 1,50 m. Il saute pour récupérer le cuir. Pas besoin d'aller trop, après tout. L'Argentin ne mesure que 1,65 m. Mais voilà. Maradona aussi décide de sauter. Et lui, il a la détente des petits. Ses mollets sont en béton. D'une manière presque esthétique, il vient percuter la muraille venue d'Angleterre. Tout en prenant le soin de lever son bras gauche, celui sur lequel figure le brassard de son pays. C'est pour l'Argentine qu'il décolle ainsi dans les airs. Pour Sacha, pour son père, et puis pour tous les supporters. Pour se venger aussi. La rage aux lèvres, les yeux fermés, Maradona attend le choc face au monstre qui arrive sur lui, le poing levé et serré, le tout comme un symbole de résistance. Le temps s'arrête. Le ballon touche-t-il alors sa tête ou sa main ? Sacha et son père, comme tous les autres, y compris les coéquipiers de Maradona, ne distinguent rien de précis. La seule chose sur laquelle ils se concentrent, c'est sur ce ballon qui passe langoureusement au-dessus de la tête du géant anglais et qui se dirige, sans discontinuer, droit vers le centre du but. Le reste appartient à l'histoire et à la légende. Laissez-moi remonter le fil de notre histoire et vous emmener 4 ans plus tôt. Nous sommes le 13 juin 1982. C'est la soirée d'ouverture de la précédente Coupe du monde de football. Nous sommes en Espagne. Plus particulièrement au Camp Nou de Barcelone. Autre stade mythique, autre destin. L'enceinte du FC Barcelone accueille le premier match du groupe 3. Il oppose la Belgique au tenant du titre, l'Argentine. En 1978, le pays sud-américain a remporté sa première couronne mondiale, sans Maradona encore trop jeune. Un triomphe absolu, incontesté, incontestable. Des petits nouveaux sont venus s'ajouter à la sélection pour l'édition suivante, celle de 1982. Diego en fait partie. Il a 21 ans, déjà une gouaille d'enfer et un pied magique. Il évolue à Boca, l'un des clubs les plus mythiques du monde. Et c'est avec des larmes plein les yeux qu'il a appris sa convocation pour le Mondial en Espagne. Pour la première fois de sa jeune carrière, il va fouler la pelouse du Camp Nou. Ce jour-là, 95 000 personnes ont pris place dans le stade. Lorsqu'il pénètre sur le pré, entouré des cris, des vivas et sous la lumière des projecteurs, ses jambes flagellent. Oh, il n'est pas idiot, le jeune Diego. Il sait que la gloire se gagne déjà en Europe. Ce mondial est important pour sa carrière, histoire d'ouvrir des portes jusqu'alors insoupçonnée. La sienne s'appellera Naples, mais en ce 13 juin 1982, il l'ignore encore. Face à l'Argentine, ce soir se tient la Belgique, un adversaire jugé à la portée de l'Albicélesté. Bon, après tout, ils sont tenants du titre, les gars qui s'avancent sur la pelouse fraîchement arrosée du Camp Nou. C'est vrai. C'est vrai, mais ils ont la tête lourde. Des pensées négatives remplissent leur esprit. Depuis 2 mois, leur pays est en guerre contre l'Angleterre. En jeu, les îles Malouines. Défendre l'honneur et l'intégrité du territoire national, c'est l'enjeu principal de ce conflit qui touche aux racines mêmes du respect des frontières. Diego, du haut de sa toute jeune majorité, n'a pas bien compris pourquoi tout a explosé. Valdano, âgé de 26 ans et son ami depuis ses débuts en sélection, s'est chargé de lui expliquer à leur arrivée en Europe. Lui, il dit que les Britanniques sont venus un jour réclamer la souveraineté de l'îlot avec leurs gros sabots. Mais il n'est pas loin de la vérité, Valdano. L'histoire du débat autour de cet archipel est un peu plus complexe. En 1823, des colons argentins s'installent sur les îles Malouines et commencent à y faire commerce. Il faut dire que précédemment, elles étaient une possession britannique. Mais, comme Valdano le dit toujours à Diego avec rancœur, ils avaient tout abandonné. Alors quand en 1833, une frégate anglaise qui passe par là s'installe sur l'archipel et chasse les colons argentins, c'est l'incompréhension qui règne. Depuis cette date, et malgré la présence anglaise sur ce sol maudit, l'Argentine en revendique la propriété. Maradona, dont l'innocence de la jeunesse fait parfois dire des bêtises, tente d'expliquer à Valdano qu'après tout, un bout de caillou perdu dans l'océan, ils s'en foutent, eux, footballeurs. Courroux et remontage de bretelles de la part de l'aîné, comme vous pouvez l'imaginer. Assez justement, Maradona souligne que 1833, c'est le bout du monde. Alors pourquoi diable cela a-t-il explosé de cette manière en 1982 ? C'est assez simple. Le conflit diplomatique court depuis cette date. En 1966, l'ONU demande aux deux pays de discuter et accepte d'admettre que cette occupation est une forme de colonialisme. De son côté, Londres a toujours refusé de participer à des négociations. La même année, une junte militaire arrive au pouvoir en Argentine. Ceux-là ont beaucoup moins de patience que les gouvernements précédents. Et de fait, c'est l'escalade. En parallèle, la situation économique du pays est un désastre. Entre 1976 et 1982, une nouvelle junte renverse l'ancienne et déclare la dictature militaire en vigueur. L'inflation est alors de 140% par an. Et pire encore, la violente répression coûte la vie à plus de 30 000 personnes. Le général qui commande cette bande d'assassins souhaite redorer un blason en train de pourrir au sein même de sa propre population. Et quelle meilleure opportunité que d'envahir les Malouines alors que les relations se tendent entre l'Angleterre et l'Argentine à l'ONU. C'est chose faite le 12 avril 1982. Pour le régime, les footballeurs sont les dieux du stade, ceux qui divertissent le peuple au jeu du cirque. Pouvoir oublier le quotidien grâce au ballon. À cette période, Maradona devient rapidement une star et porte les espoirs de tout un pays. L'équipe nationale vient de gagner la Coupe du Monde, certes, mais ses joueurs sont vieillissants pour la plupart. Maradona n'est pas encore connu dans le monde entier. Il espère bien conquérir l'Europe grâce à ce mondial. Le conflit, lui, va plomber les têtes et doucher tous les espoirs du pouvoir en place. Le compromis est un mot que la dame de fer, Margaret Thatcher, ne connaît pas. La première ministre britannique décide d'envoyer l'artillerie lourde afin de mater ce coup de force des Argentins. Ce n'est pas qu'une affaire de caractère. Les élections législatives approchent en Angleterre et les conservateurs veulent garder la main. Mater les Sud-Américains, c'est une manière d'affirmer leur position. Les deux armées ne se valent pas, bien qu'il ne faille pas sous-estimer la force de frappe argentine. Au début des hostilités, le débarquement tourne en faveur des Argentins car les forces anglaises en présence sont peu nombreuses. Mais tant bien que mal, le gouverneur parvient à stabiliser la position en attendant des renforts. dès que les premiers bateaux britanniques arrivent avec plein de soldats et de matériel, c'est la catastrophe pour les Argentins. En moins de 2 mois, la junte se fait ridiculiser. C'est dans ce contexte géopolitique particulier que Maradona et tous les autres entrent sur la pelouse du Camp Nou, le soir du 13 juin 1982. Juste avant le coup d'envoi du match d'ouverture de cette Coupe du Monde 1982, le sélectionneur argentin annonce à ses joueurs que la guerre est perdue. Le lendemain, le 14 juin, les troupes se rendront. Le bilan n'est que de 900 tués. C'est surtout symboliquement que la perte est terrible. La junte, bientôt, sera renversée et un gouvernement élu démocratiquement siégera à sa place. Mais ça, personne ne le sait encore. Les joueurs s'inquiètent du sort de leur famille. Vous l'imaginez bien, ils ont des pieds de plomb en arrivant sur la pelouse. Et pour ne rien arranger, ils font face à une équipe belge des grands soirs. Les Diables sortent un jeu d'anthologie. Frank Verkouteren, grâce à un centre dont lui seul a le secret, permet à Erwin Vandenberg d'inscrire un but magnifique à la fin d'une heure de jeu. Ce but offre aux Belges une victoire de prestige. Alors que les Diables fêtent avec beaucoup d'entrain cette victoire totalement méritée, Maradona, lui, déjà numéro 10 dans le dos, tente d'analyser les raisons de cette première défaite qui va peser dans les têtes. Les Belges ont tissé une toile qui s'est refermée sur les champions du monde en titre. Ils ont parfaitement muselé celui que l'on n'appelle pas encore le Pibé des Oros. Oh, Maradona a bien tenté de faire la différence, mais Zan Marie, le géant dans les buts, et Eric Guéret, au meilleur de sa forme, l'ont à chaque fois empêché. Certes, cette défaite n'est pas synonyme d'élimination, mais l'aventure débute de la pire des manières. 5 jours plus tard, alors que la Belgique s'apprête à disputer son 2e match contre le Salvador, l'Argentine se venge en atomisant la Hongrie sur un score fleuve de 4-1. Ils reviennent à hauteur des Diables avant le match contre le Salvador. Mais là encore, la Belgique gagne 1-0. Décidément, quand rien ne va. Le 22 juin, les Belges sont accrochés un partout par une courageuse équipe de Hongrie. La Belgique est donc assurée de terminer première du groupe. La victoire de l'Argentine sur le Salvador ne compte donc que pour du beurre. Les Argentins sont qualifiés. Mais ils vont devoir passer par un 2e tour de la mort dans un groupe aux côtés du Brésil et de l'Italie. 2 sérieux contenders. Grâce à un doublé, Maradona a certes éclaboussé de son talent le match contre la Hongrie. Mais il sent venir le traquenard avec les matchs contre 2 équipes qui respirent aussi le football. La sentence pour cette équipe d'Argentine, qui, globalement, n'a pas mis un pied devant l'autre, ne se fait pas attendre. Certes, dans le groupe A, les Belges se font étriller 3-0 par la Pologne, puis perdent également leur 2e match contre l'URSS. Fin de l'histoire. Verkouteren et Vandenberg rentrent à la maison. Mais dans le groupe C, à la surprise générale, c'est le même destin qui attend l'Argentine. Défaite 2-1 contre l'Italie, 3-1 contre l'ennemi Oni, le Brésil, et c'est la porte. Pour tout un pays en quête d'une 2e couronne de suite, c'est la sidération. Maradona est resté figé. Pas un seul but dans ce 2e tour. C'est donc la tête basse que toute la sélection reprend le chemin de Buenos Aires. Alors qu'il attend son avion retour, Maradona écoute à la radio la demi-finale entre l'Allemagne de l'Ouest et la France. Il essaye de rassembler ses idées, mais n'y parvient pas. Il ne comprend toujours pas. Pendant ce temps-là, à la radio, les commentateurs horrifiés décrivent l'attentat de Schumacher contre Battiston. Alors que ce dernier est lancé vers le but par Michel Platini, le gardien allemand, Harald Schumacher, le percute de plein fouet. Le choc est d'une rare violence. Alors que la France mène 2-0, Maradona divague et se perd dans ses pensées. La RFA est revenue au score, 3-3. La séance de tirs au but qui s'ensuit est remportée par les Allemands, notamment grâce à Schumacher, qui aurait pourtant mérité une exclusion pour son geste. L'Italie se chargera de ridiculiser la RFA en finale. La France, elle, finit 4e après sa défaite contre la Pologne. De retour au pays, Maradona est empli de culpabilité et de rancune. À ses amis qui lui demandent ce qu'il compte faire, il est clair. Quitter le pays, jouer en Europe, gagner le brassard de capitaine de sa sélection. Et plus encore, gagner. Gagner pour mener l'Argentine au sommet, coûte que coûte.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H est consacrée à l'un des destins footballistiques les plus sensationnels de l'histoire, celui de Diego Maradona. Alors que le quart de finale entre l'Argentine et l'Angleterre en guerre 4 ans plus tôt est en cours depuis 51 minutes, celui qu'on surnomme El Pibe de Oro réalise un geste totalement inattendu. C'est l'épisode de la main de Dieu. Dans un saut hallucinant face au gardien britannique, Maradona lève le bras gauche afin de mettre toutes les chances de son côté. Alors que le cuir file droit vers le but, lui-même se pose cette question. A-t-il touché le ballon avec sa tête, comme il va bientôt le confirmer à ses coéquipiers, ou bien de la main, comme le pensent tout de suite ses adversaires? Le match, lui, suit son cours. La balle, elle, rentre dans le but vide. L'Argentine mène 1-0. Nous sommes le 22 juin 1986, il est 12h55 à Mexico. Depuis 3 minutes, les Anglais sont sonnés sur le terrain. Lineker et les autres ne comprennent pas. Le but a été accordé, alors même que Shilton et tous les défenseurs en sont certains. Maradona a frappé la balle de sa main. Incroyable que l'arbitre n'ait pas pu le voir. Ils sont amorphes, les joueurs anglais. Le revanchard argentin, lui, n'en a pas fini. Le milieu défensif lui passe le ballon après un petit geste technique. Maradona est à 50 mètres du but adverse. Il se défait du marquage de deux joueurs, d'un contrôle, puis d'un magnifique dribble de la semelle. À toute berzingue, lancé comme un ange sur les nuages, il se dirige vers le but anglais. Face à la défense, une nouvelle fois, Maradona est impérial. Il élimine les géants. Impressionnant, mais somme toute assez lent. Et se retrouve une nouvelle fois face à Shilton. Ce dernier doit commencer sérieusement à maudire ce petit diablotin. L'anglais sort de ses cages. Maradona fait mine de faire une passe à l'un de ses coéquipiers sur sa gauche. Au lieu de ça, d'un amour de dribble, il élimine le gardien sur sa droite, évite un tacle venant d'un défenseur qui lui colle au train et marque dans le but vide. Ce deuxième goal, en moins de 5 minutes, est considéré comme le but du siècle. Tout le stade exulte, c'est la cohue. L'Argentine se dirige avec assurance vers le dernier carré de la compétition. Maradona déclare après ce but « Je savais que j'allais marquer. Je craignais seulement que Butcher ne me casse la jambe. » Mais ça n'aurait pas eu d'importance, parce qu'en cassant ma jambe, à cause de la position du ballon, il l'aurait mis dans le but. L'art du sacrifice et de la performance. L'Argentine mène 2-0. Un commentaire hurlé par Victor Hugo Morales, en direct de la première station de radio en Argentine, fera entrer le geste dans la légende. Il s'exclame. Il va la jouer pour Diego, voilà Maradona, il est marqué par deux joueurs, il met le pied sur le ballon. Maradona, le génie du football mondial, commence par la droite. Il quitte le centre du terrain et va jouer pour Burruchaga, toujours Maradona. Génie, 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 ta-da-da-da-da, goal, 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 goal! Oh, je vais pleurer, mon Dieu, vive le football, Golazo, Diego, Maradona. C'est à en pleurer, oh, pardonnez-moi. Maradona dans une course mémorable, dans la meilleure action de tous les temps, cerf-volant cosmique, mais de quelle planète es-tu venu pour laisser autant d'Anglais derrière toi pour que le pays soit un point serré qui crie pour l'Argentine? Argentine 2, Angleterre 0, Diego, 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 Armando Maradona, Dieu merci pour le football, pour Maradona, pour ses larmes, pour ce Argentine 2, Angleterre 0. Shilton, lui, est désabusé. Le gardien s'incline pour la deuxième fois. Il dira après le match que le stade a explosé. La suite de la rencontre ne permet plus aux Anglais de revenir complètement. À À la 81e minute, Lineker réduit le score, mais rien n'y fait. Après 57 secondes étouffantes dans le temps additionnel, l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Toute une nation pleure, hurle, s'étouffe dans la célébration d'une vengeance aussi sportive que politique. Tous les ingrédients sont réunis pour en faire un match de légende. À la fin de ce match mythique face aux Anglais, le héros du jour aura ces mots afin de nier le geste polémique. Je l'ai mis un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu. Le nom du fameux but est né, la main de Dieu. El Pibe de Oro se croit intouchable. Il faut dire que depuis son arrivée à Naples 2 ans plus tôt, il est l'un des protégés de la Camorra, la mafia napolitaine. Son nouvel agent le fait entrer dans les cercles les plus huppés du show business. Alors s'il faut tricher et marquer de la main pour se qualifier, eh bien, qu'il en soit ainsi. Maintenant, place aux demi. La première demi-finale oppose la RFA à la France. Les deux se retrouvent 4 ans après leur mythique match à ce même stade de la compétition. Pas de miracle pour les Français qui s'inclinent 2-0, inexistant. De son côté, l'Argentine affronte une nouvelle venue dont le parcours fait rêver tous les commentateurs qui suivent le mondial, la Belgique. Impressionnant, les Diables ont réussi à se débarrasser de l'URSS et de l'Espagne pour se hisser dans le dernier carré. Mais Maradona n'a pas oublié que les Belges ont humilié l'Albicéleste en ouverture du mondial espagnol de 1982. Il va se faire un plaisir de leur rappeler qui est le boss. Comme un symbole, Maradona va ouvrir le score à la même minute de jeu que sa main de Dieu du précédent match, grâce à son pied gauche cette fois. 10 minutes plus tard, les Argentins crucifient le diable grâce à un autre but venu d'ailleurs. Fin de l'aventure pour la Belgique qui perdra 4-2 le match de la 3e place face à la France. Les Diables reçoivent la médaille en chocolat. La grande finale oppose donc la RFA à l'Argentine. Déjà finaliste malheureuse face à l'Italie en 1982, l'Allemagne de l'Ouest attend son heure. Maradona aussi. Menée 2-0, la RFA arrive par miracle à accrocher le match nul alors qu'il ne reste que 9 minutes à jouer. Le grand artisan du parcours argentin, pour le moment, est pour le moins discret. Il est bien muselé par les géants venus d'Allemagne qui veulent au moins autant que lui leur place sur l'Olympe. Mais poussé par un public en fusion, toujours à l'Azteca de Mexico, Maradona se laisse porter par les 115 000 spectateurs. 8 minutes à jouer, puis 7, puis 6. On attaque la 84e minute. Maradona se défait du marquage. Surgit sur le coin de la surface allemande, adresse un amour de centre en direction de la surface de réparation. Par chance, un coéquipier a bien suivi. D'une tête rageuse, il catapulte le ballon au fond des filets. Maradona est champion du monde. L'Argentine chavire de bonheur. Guidée par son Messi, elle obtient sa 2e étoile mondiale. Ce pays en souffrance sur son sol, fragile démocratie en construction, utilise ce succès comme l'étendard d'une reconstruction qui prend des allures de victoire. Le tout grâce à un homme dont le pied a fait chavirer le monde, bien aidé par Dieu, un soir de quart de finale, Diego Maradona.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'un des épisodes les plus célèbres des Coupes du Monde de football. La main de Dieu, signée par El Pibe de Oro, Diego Maradona. Ce geste, en quart de finale de l'édition 1986, le conduit au sommet de son sport. Aux dépens de l'équipe de la RFA, Maradona devient champion du monde pour la première fois de sa jeune carrière. À 25 ans, celui qui a quitté Boca Juniors voit s'ouvrir en grand les portes du succès. Il n'est pas encore roi de Naples, mais déjà, il est l'un de ceux qui dominent le monde. L'un des numéros 10 les plus iconiques de l'histoire du sport peut dormir tranquille. Sa carrière s'apprête à prendre une trajectoire ahurissante. Nous sommes le 3 juillet 1990. Il est 23h. Au bout de la nuit, dans un stade qui est le sien, celui de son club, le Napoli, Maradona vient d'éliminer l'Italie. Lors des tirs au but, le tenant du titre avec son équipe d'Argentine a éteint les espoirs du pays organisateur de la nouvelle Coupe du Monde. Stupéfait, les 60 000 supporters présents au stade célèbrent sa victoire, comme si l'Italie venait de gagner. Lui-même n'en revient pas. Son short noir taché des traces d'herbes vertes de la pelouse impeccable, un maillot rayé bleu, ciel et blanc, reconnaissable entre tous, il est porté en triomphe. Pourtant, il est fatigué, Diego. Il n'a que 29 ans, certes, mais il est déjà méconnaissable. Il est loin. Le temps du pibé des oros. L'Argentine a d'ailleurs manqué de se faire éliminer dès le premier tour. Mais miracle. Il s'est réveillé en huitième de finale contre le Brésil, puis a assuré en quart. Ce soir, en revanche, il a déjà été plus discret. Mais peu importe, il est encore une fois en finale d'un mondial. Il espère filer vers la troisième étoile de son pays. Mais ce soir, toute la nuit, déjà, il faut célébrer. Sa réputation de fêtard, qu'il assume totalement, le poursuit déjà. D'ailleurs, il ne se fait pas d'illusions. Ses cheveux coupés en brosse, son poids qui ne cesse d'augmenter, le fait de prendre discrètement des substances plus ou moins douteuses, le tout joue sur ses performances. Maradona ne supporte pas de voir qu'il est essoufflé au bout de 20 minutes passées sur le pré. Puis soyons honnêtes, il est déjà beaucoup moins percutant. Un capitaine se doit de montrer l'exemple à ses coéquipiers. Lui préfère tenir les magnums de champagne en boîte. Mais quelle importance! Le voilà, encore une fois, en finale. Quittant le stade et montant dans le bus, il lance des chants et frime un peu, arguant qu'il a éliminé l'Italie tout en étant chez lui, à Naples. Ses coéquipiers, eux, sont plus inquiets. Ils semblent à bout de souffle. Et dans quelques jours se profile la finale contre la RFA, qui joue sa troisième finale consécutive. Un record. Des losers, se targue Maradona. Il manque parfois peu de choses aux équipes maudites pour basculer dans la lumière. Au terme d'un match terne, un pénalty pour le moins limite sera sifflé en faveur des Allemands, 5 minutes avant la fin du temps réglementaire. L'Argentine plonge dans une nouvelle désillusion. Fin des espoirs pour Maradona, qui se contente cette fois de la médaille d'argent. Et les années qui vont suivre ne vont plus lui donner l'occasion de rouler des mécaniques. La dure loi du sport le frappe de plein fouet. Quelques mois après cette malheureuse défaite sur le sol italien, Maradona est contrôlé positif à la cocaïne. Il prend 15 mois de suspension. En parallèle, la justice le condamne à 14 mois de prison avec sursis. C'est le début de la fin. Naples, où il est une icône incontestée, décide de s'en séparer. Il sera un temps annoncé à Marseille, sous l'égide de Bernard Tapie. Mais finalement, il est trop cher et peu en état de jouer, selon les instances du club. C'est Séville qui rafle la mise. Après une saison ratée, Maradona décide de retourner au pays. D'abord au Newell's Old Boys, puis dans son club formateur après la Coupe du Monde 1994. Alors qu'au départ, le sélectionneur se refuse à le reprendre, il finit par accepter le retour en grâce de l'idole de tout un peuple. Maradona joue 2 matchs avec l'équipe d'Argentine, marque un but magnifique contre la Grèce. Mais ces démons ne tardent pas à le rattraper. Contrôlé positif à une nouvelle drogue, on le force à ranger les crampons. En 94, le Brésil battra l'Italie en finale. L'Argentine sera éliminée en 8e par la Roumanie. Fin de l'hégémonie. En 1997, âgé de 37 ans, Maradona décide de quitter le monde du football. Ses déboires avec la justice ternissent son image. Il tente de démarrer une carrière en tant qu'entraîneur. Il emmène l'Argentine à la Coupe du Monde 2010 en tant que sélectionneur. Il gère ensuite quelques clubs émiratis ou sud-américains. Malade, usé par ses nombreux abus, Maradona meurt à l'âge de 60 ans. Le 25 novembre 2020, emporté par un arrêt cardiaque. El Pibe de Oro, c'est un style, un technicien hors pair, un magicien du ballon rond, mais aussi un caractère fort. Une volonté farouche de conduire ses équipes vers le succès. Son palmarès donne le vertige. Un championnat d'Argentine, une Coupe du Roi et une Coupe de la Ligue d'Espagne, une Coupe d'Italie, une Super Coupe, deux championnats d'Italie et une Coupe de l'UEFA. S'ajoute à cela trois titres avec son pays, dont la fameuse Coupe du Monde 1986, stratosphérique. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation du Pibe de Oro, issu d'un quartier pauvre de Buenos Aires. Celui qui s'est construit tout seul aura gardé un caractère des plus trempés, ayant la réputation de se fâcher pour tout, avec tout le monde. Toujours très proche des causes liées à la pauvreté, il se rend un jour au Vatican afin de rencontrer le pape Jean-Paul II. Il n'y fera qu'une seule visite. À la sortie du palais papal, il s'adresse aux journalistes. Il déclare ceci. « Je me suis fâché avec le pape. Je suis allé au Vatican, le plafond était recouvert d'or. Et après, on nous dit que l'Église se préoccupe des plus pauvres. Putain, mec, vends-le-toi, fais quelque chose. » Voilà qui était Maradona. Une gueule, un style, un sportif de génie, une gouaille et des principes chevillés au corps. Et une main, celle de Dieu. Voilà pour ce récit d'une destinée mythique que j'ai eu le plaisir de vous partager, grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.